Nous ne les voyons pas toujours. Ces acteurs silencieux et oubliés de nos histoires intimes, de nos histoires de couple. Nos enfants demeurent, longtemps, des réceptacles de nos désirs d'adultes, de nos épreuves et de nos choix. Lorsque la vie de couple se fissure, pour exister, les enfants doivent parfois façonner leur propre destin en secret, construire des souvenirs précieux qui ne seront pas partagés. Leurs réussites, leurs échecs et même leurs sourires sont autant de trésors cachés que nous ne trouverons jamais entièrement. C'est ainsi que cela se passe dans la majorité des cas. On oublie souvent qu'en tant que parents, nos actions demeurent éternellement liées à la vie de nos enfants. Chaque acte posé, réfléchi ou non, laisse des traces indélébiles dans leur cœur et dans l'esprit.
Une si longue lettre de Mariama Ba. Adaptation et réalisation, Tidiane Tiang. Quatrième épisode, le fruit mûr tombe de l'arbre.
Aïssatou, mon ami. Mon drame survint 3 ans après le tien. Mais contrairement à ton cas, le point de départ ne fut pas ma belle famille. Le drame prit racine en Maudoufal lui-même, mon mari. Il n'y a pas de comparaison possible entre la petite Nabou et toi, je te l'ai dit. Mais je reconnais aussi qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la petite Nabou et Bintou, ma coépouse. La petite Nabou avait grandi à côté de sa tante, qui lui avait assigné comme époux son fils, Maudo. Maudo avait donc peuplé les rêves d'adolescence de la petite Nabou. Habituée à le voir, elle s'était laissée entraîner naturellement vers lui, sans choc. Ses cheveux grisonnants ne l'offusquaient pas. Ses traits épaissis étaient rassurants pour elle. Et puis elle aimait et aime encore Maudo, même si leurs préoccupations ne véhiculent pas toujours le même contenu. L'empreinte de l'école n'avait pas été forte en la petite Nabou. Précédée et dominée par la force de caractère de tante Nabou qui, dans sa rage de vengeance, n'avait rien laissé au hasard dans l'éducation qu'elle avait donnée à sa nièce. Quant à Bintou, elle avait grandi en toute liberté, dans un milieu où la survie commande. Sa mère était plus préoccupée de faire bouillir la marmite que d'éducation. Belle, enjouée, bon cœur, intelligente, Bintou avait une conscience aiguë de ce qu'elle immolait dans son mariage. Victime, elle se voulait oppresseur. Exilée dans le monde des adultes qui n'était pas le sien, elle voulait sa prison dorée. Exigeante, elle tourmentait. Vendue, elle élevait chaque jour sa valeur. Ses renoncements qui étaient jadis la sève de sa vie et qu'elle énumérait avec amertume, réclamaient des compensations exorbitantes que Maudou s'exténuait à satisfaire. Et Maudoufal teignait mensuellement ses cheveux. La taille douloureusement prise dans ses pantalons qui n'étaient plus de mode, Bintou ne manquait jamais l'occasion d'en rire méchamment. Maudoufal s'essoufflait à emprisonner une jeunesse déclinante qui le fuyait de partout. On parlait d'ensorcellement. Des amis avec conviction me suppliaient de réagir.
Ramatoulaye, il faut que tu agisses maintenant. Il est temps, tu vas pas laisser les choses se faire comme ça. Mais tu as tellement souffert, regarde-toi, tu ne ressembles plus à rien. Tu vas venir laisser cette petite pimbèche-là venir récolter le fruit de tout ton travail, de toute une vie. Qu'est-ce que tu penses à tes enfants même?
Ramatoulaye, moi que tu vois comme ça, je connais un très grand marabout en Casamance. Il est capable de te ramener ton mari et t'éloigner à jamais Binetou.
Oh, Baliverne, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Il y a un petit vieux là qui est à côté. Il est tellement fort.
Celui à côté là.
Oui.
Ma raison et ma foi rejetaient les pouvoirs surnaturels. Elles rejetaient cette attraction facile qui annihile toute volonté de lutte. je regardais en face la réalité. La réalité avait le visage de Dame Belle-Mère qui avalait des bouchées doubles au râtelier qu'on lui offrait. Sa baraque branlante, tapissée de zinc et de couvertures de revues où se côtoyaient pin-ups et publicités, était estompée dans son souvenir. Elle jouissait de son bonheur neuf, en connaissance de la misère. Maud Oufal répondait à son attente. Il lui envoyait, prévenant, des liasses de billets à dépenser et lui offrait lors de ses voyages à l'extérieur des bijoux et de riches boubous. Dès lors, elle accéda à la catégorie des femmes chantées par les griots. Extasiée, elle écoutait la radio transmettre des hymnes qui lui étaient dédiés à elle et à sa fille Bintou.
Chers amis, auditeurs de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Sénégal, nous vous disons bonjour et nous faisons le plaisir de recevoir, comme promis, très attendu, en direct, Youssou Ndour, l'étoile de la Médina.
Disons que c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'ai connu il y a très longtemps. Mais c'est quelqu'un aussi que j'appelle un des plus grands promoteurs de la musique africaine et puis de la musique sénégalaise en particulier. Je pense Peter est pour ce qui...
Moi, je survivais. En plus de mes anciennes charges, j'assumais celle de Maud Oufal. L'achat des denrées alimentaires de base me mobilisait toutes les fins de mois. Mon cerveau s'exerçait à une nouvelle gymnastique financière. Les dates extrêmes de paiement des factures d'électricité ou d'eau sollicitaient mon attention. J'étais souvent la seule femme dans une file d'attente. Remplacer serrures et loquets des portes détraquées, remplacer les vitres cassées était ennuyeux autant que la recherche d'un plombier pour secourir les lavabos bouchés. Je survivais. Je me débarrassais de ma timidité pour affronter seule les salles de cinéma. Je m'asseyais à ma place, avec de moins en moins de gêne au fil des mois. On dévisageait la femme mûre sans compagnon. Je feignais l'indifférence, alors que la colère martelait mes nerfs et que mes larmes retenues embuaient mes yeux. Je mesurais aux regards étonnés la minceur de la liberté accordée à la femme.
Je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamont parle d'1 500 000 morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi.
Films intellectuels à thèse, films sentimentaux, films policiers, films drôles, films à suspense furent mes compagnons. Je puisais en eux des leçons de grandeur, de courage et de persévérance. Ils approfondissaient et élargissaient ma vision du monde grâce à leur apport culturel. J'oubliais mes tourments en partageant ceux d'autrui. Le cinéma, distraction peu coûteuse, peut donc procurer une joie saine. Je survivais. Plus je réfléchissais, plus je savais gré à Maud Oufal d'avoir coupé tout contact. J'avais la solution souhaitée par mes enfants, la rupture, sans en avoir pris l'initiative. Le mensonge n'était pas installé. Maud Oufal me rejetait de sa vie et le prouvait par son attitude sans équivoque. Je n'étais donc pas trompée. Je n'intéressais plus Maud Oufal. Et je le savais. J'étais abandonnée. Je souffle. J'ai raconté d'un trait ton histoire et la mienne. J'ai dit l'essentiel car la douleur, même ancienne, fait les mêmes lacérations dans l'individu quand on l'évoque. Ta déception fut la mienne, comme mon reniement fut le tien. Aïssatou, Aïssatou, pardonne-moi encore si j'ai remué ta plaie. La mienne saigne toujours. La vie n'est pas lisse. On y bute sur des aspérités. Je sais aussi, nul mariage n'est lisse. Il reflète les différences de caractère et de potentiel sentimental. J'ai aimé ma maison. Tu peux témoigner que j'en ai fait un havre de paix où toute chose a sa place, créer une symphonie harmonieuse de couleurs. Tu connais ma sensibilité, l'immense amour que je vouais à Maud Oufal. Tu peux témoigner que, mobilisé jour et nuit à son service, je devançais ses moindres désirs. Et Maud Oufal n'était pas prisonnier. Il usait de son temps comme il le voulait. Je comprenais fort bien son envie de défoulement. Il se réalisait au dehors comme il le souhaitait, dans ses activités syndicales. Pour tout dire, la réussite de chaque homme est assise sur un support féminin. Et je m'interroge. Pourquoi ? Pourquoi Maud Oufal s'est-il détaché ? Pourquoi a-t-il introduit Bintou entre nous ? Tu répondras, logique, les inclinaisons naissent de rien. Parfois une grimace, un port de tête séduisent un cœur et le gardent. Je m'interroge. Ma vérité est que malgré tout, je reste fidèle à l'amour de ma jeunesse. Aïssatou, je pleure Maud Oufal et je n'y peux rien. Daba, ma fille, est là, à mes côtés, légère, souriante de toutes ses dents. Daba, les travaux ménagers ne l'accablent pas. Son mari cuit le riz aussi bien qu'elle. Je sens mûrir la tendresse de ce jeune couple qui est l'image du couple tel que je la rêvais. Ils s'identifient l'un à l'autre, discutent de tout pour trouver un compromis. Je tremble tout de même pour Daba. La vie a de ses surprises.
Fais attention, ma fille. La vie peut nous réserver bien des surprises. Les hommes, on peut les aimer. Mais on ne leur fait jamais confiance.
Oui, maman.
Tu comprends ?
Oui, je comprends. Mais le mariage n'est pas une chaîne. Pour moi, c'est une adhésion réciproque à un programme de vie. Et puis, si l'un des conjoints ne trouve plus son compte dans cette union, pourquoi il devrait rester ? Ça peut être mon mari, ça peut être moi aussi. Pourquoi pas ? La femme peut prendre l'initiative de la rupture.
Elle raisonnait, cette enfant. Elle avait des points de vue sur tout. Je la regarde. Daba, mon aînée, qui m'a admirablement secondée auprès de ses frères et sœurs. C'est Satou qui a pris sa relève dans la marche de la maison. Satou fait la toilette des plus petits. Oumar, 8 ans, les autres se débrouillent bien. Satou est aidé dans sa tâche par Ami et sa jumelle Awa qu'elle initie. Décidément, mon ami, c'est la cascade des événements malheureux. Je suis ainsi faite. Quand le malheur me tient, il ne me lâche plus. Farmata, la griotte au curry, m'a habilement manœuvré vers cette découverte désastreuse. Satou est enceinte de 8 mois. La rumeur publique l'avait sans doute aiguillonnée, ou son sens développé de l'observation l'avait simplement servi.
C'est une jeune fille mince de taille moyenne. Et elle n'est pas encore mariée. Et Cori ne mente pas.
Chaque fois qu'elle lançait ses Cori pour couper nos discussions, elle poussait des « de mécontentement. Elle signalait dans la masse désordonnée des Cori.
Mais regarde donc.
J'avais bien remarqué l'amaigrissement soudain de sa toux, son manque d'appétit, le gonflement de ses seins. Autant de signes révélateurs de la gestation qu'elle couvait. Le petit Oumar me signala bien un jour que Satou vomissait dans leur salle de bain chaque matin au moment de le laver. Mais Satou, interrogé, nia, parla de rejet d'eau mêlé à la pâte dentifrice. Oumar ne parla plus de vomissement. Ma préoccupation changea de centre d'intérêt. Comment pouvais-je imaginer la vérité qui tout à coup éclatait ? Le destin impitoyable me surprenait encore. Comme toujours, sans armes défensives. Farmata insistait chaque jour un peu plus sur la jeune fille enceinte de ses Cori. Elle me la montrait. Elle souffrait de son état. Son attitude était éloquente.
L'enfant est dans le ventre. Il fait corps avec sa mère. Le groupe des deux Cori isolés. Il s'agit d'une femme sans attache. Donc d'une jeune femme sans mari. Mais comme les Cori sont menus, c'est bien d'une jeune fille qu'il s'agit.
Et sa main lançait et relançait les Cori bavards. Ils se fuyaient, s'entrechoquaient, se chevauchaient. Leur tintement annonciateur remplissait le van et le même groupe de 2 Cori toujours s'isolait pour révéler une détresse. Je suivais sans passion leur langage. Farmata était excédée par ma naïveté.
Questionne tes filles, Ramatoulaye.
Mes filles.
Questionne-les. Une mère de famille doit être pessimiste.
Troublée par la ténacité des répétitions, inquiète, j'acceptais la proposition.
Bon, va les chercher.
Ah, c'est pas trop tôt.
De peur de me voir changer d'avis, Farmata s'engouffra avec sa démarche de gazelle aux attaches fines dans la chambre de Satou. Elle en ressortit, une lueur de triomphe dans l'œil. Satou, en pleurs, la suivait. Farmata verrouilla la porte et déclara.
L'eau et le sable sont mêlés. Ils forment de la boue. Ramasse ta boue, Ramatoulaye. Hein? Satou ne nie pas son état. Je l'ai sauvée en te révélant ce qui est. Toi, tu ne devinais rien. Elle n'osait pas se confier. Vous n'alliez jamais sortir de cette situation. Hein? Oh.
L'émotion obstruait ma gorge. Moi, si prompte aux remontrances, je me taisais. Abasourdi, je suffoquais de chaleur. Mes yeux se fermèrent, puis s'ouvrirent à nouveau. Je mâchonnais ma langue.
Parle, on t'écoute. Qui est le père de cet enfant?
La première question qui vient à l'esprit à la découverte d'un pareil état est « Qui ?» Qui est l'auteur de ce vol? Car vol, il y a. Qui est l'auteur de ce préjudice? Car préjudice, il y a. Qui a osé? Qui? Qui?
Il s'appelle Ibrahima Sall.
Ibrahima Sall deviendra bien vite, dans son langage, Iba, tout court.
Iba est étudiant à l'université. Étudiant en droit. On s'est connus à la fête d'anniversaire d'une copine.
Je regardais avec ahurissement ma fille si bien élevée. Si tendre avec moi, si serviable dans la maison, si efficace en tout. Tant de qualités pouvaient s'allier à pareil comportement.
Iba a décidé de se priver de tout pour l'entretien de l'enfant.
J'apprenais tout d'un seul trait, avec une voix pleine de hoquets entrecoupés de reniflements, mais sans aucun regret.
Iba n'a rien sollicité ni exigé. Tout est venu naturellement entre nous.
Satou baissait la tête. Je la reconnaissais à son récit sans phare.
Comment allez-vous faire pour vous occuper d'un enfant à votre âge, hein?
Je la reconnaissais au don entier d'elle-même à cet amoureux qui avait réussi à faire cohabiter dans ce cœur mon image et la sienne. Satou baissait les yeux, consciente du mal qui m'accablait, moi qui me taisais. Ma main supportait ma tête lasse. Satou baissait les yeux. Elle entendait le craquement de mes entrailles. La gravité de son acte ne lui échappait pas dans ma situation de veuve récente qui succède à mon état d'abandonnée. Dans les batailles de filles, à part Daba, elle était l'aînée. L'aînée devait être exemplaire. Mes dents claquaient de colère. Me souvenant, comme d'une bouée de sauvetage, de l'attitude tendre et consolatrice de ma fille pendant ma détresse, mes longues années de solitude, je dominais mon bouleversement. Je recourais à Dieu. Comme à chaque drame de ma vie. Qui décide de la mort et de la naissance? Dieu Tout-Puissant. Et puis on est mère pour comprendre l'inexplicable. On est mère pour illuminer les ténèbres. On est mère pour couver quand les éclairs zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlise. On est mère pour aimer, sans commencement ni fin. Faire de mon être un rempart défensif entre tous les obstacles et ma fille. Je mesurais à cet instant de confrontation tout ce qui me rattachait à mon enfant. Je ne pouvais pas l'abandonner, comme le dictait l'orgueil. Sa vie et son avenir constituaient un enjeu puissant qui démolissait les tabous et imposait à mon cœur et à ma raison sa supériorité sur tout. C'est moi qui n'avais pas été à la hauteur. On est mère pour affronter le déluge. Face à la honte de mon enfant, à son repentir sincère, face à son mal, à son angoisse, devrais-je menacer? Je pris dans mes bras ma fille. Je la serrai douloureusement dans mes bras, avec une force décuplée, faite de révolte païenne et de tendresse primitive. Comment avait-elle pu seule cohabiter avec son secret? Me traumatisait l'effort et la maîtrise déployés par cet enfant pour se soustraire à ma colère quand le vertige la saisissait ou quand elle me remplaçait auprès de ma turbulente marmaille. J'avais mal. Je geignais. J'avais profondément mal.
Tu n'as que des filles, Ramatoulaye. Adopte une attitude qui peut continuer. Tu verras. Si c'est Satou qui a fait ça, tes autres filles, je me demande ce qu'elles feront. Couvre ta fille de caresses, Amatoulaye. Tu verras.
Farmata était étonnée. Elle s'attendait à des lamentations. Je souriais. Elle voulait des remontrances véhémentes. Je consolais. Elle souhaitait des menaces. Je pardonnais. Décidément, elle ne saura jamais à quoi s'en tenir avec moi. Elle rêvait pour sa toux de somptueuses fêtes de mariage qui la dédommageraient de mes pauvres épousailles alors qu'elle était une jeune fille déjà attachée à mes pas comme une ombre. Elle rêvait de festivités et voilà que cette fille est allée se donner à un jeune étudiant désargenté qui ne lui sera jamais reconnaissant. Elle me reprochait mon calme. Satou sera consulté par un médecin. Je verrai bien en convoquant Ibrahim Assal pour le lendemain. Ibrahim Assal s'introduisit dans ma chambre à l'heure convenue. Son exactitude me plut. Grand, simplement habillé. Des traits charmants dans l'ensemble, mais des yeux remarquablement beaux, veloutés, tendres dans l'écrin de longs cils. On les souhaiterait dans un visage de femme. Le sourire aussi. Mon regard s'attarda sur la dentition. Pas de séparation traîtresse. Ibrahim Assal incarnait bien, avec une note désinvolte, le jeune premier séducteur. Il me plut et je constatais avec soulagement sa propreté. Cheveux courts peignés, ongles coupés, chaussures cirées. Il devait être un homme d'ordre, donc sans fourberie. Je l'avais convoqué et c'est lui qui prit la direction de notre entretien.
Cet entretien, combien de fois j'ai voulu le provoquer pour vous avertir. Je sais ce qu'une enfant représente pour sa mère et Satou m'a tellement parlé de vous que... de vos liens que je crois vous connaître. Je ne suis pas un chercheur d'aventure.
Heureusement.
Votre fille est mon premier amour. Je souhaite qu'elle soit l'unique. Je regrette ce qui est arrivé. J'épouserai Satou, si vous êtes d'accord.
Bien sûr.
Ma mère s'occupera de son enfant et nous continuerons nos études.
Et voilà, condensé et bien dit, tout ce que je souhaitais entendre. Quoi répondre ? Donner facilement mon adhésion à ses propositions ? Farmata, présente à l'entretien, veillait au grain. Elle le provoqua.
C'est bien toi le premier.
Oui, c'est moi.
Alors avertis ta mère. Nous irons où ? Non. J'irai la voir demain pour lui annoncer ton forfait. Qu'elle économise beaucoup d'argent pour dédommager ma nièce. Et puis ça, tu ne pouvais pas attendre d'avoir une situation pour courir les filles, yo. Hein?
Ibrahim Assal acceptait les observations de la griotte sans énervement. Peut-être la connaissait-il de nom et de caractère pour lui opposer un silence si poli. Mes préoccupations étaient d'un ordre autre que celle de Farmata. Nous étions en pleine année scolaire. Comment manœuvrer pour éviter le renvoi de ma fille? Je fis part de mes craintes à Ibrahim Assal. Lui aussi y avait pensé.
L'essentiel... et de ne point s'affoler.
Tu oses nous demander de ne pas nous affoler après ce que tu viens de faire? Hein? Ah ouais, quel culot!
L'accouchement est prévu en pleine vacances. Satou va s'habiller avec des robes amples. À l'ouverture prochaine, le bébé aura 2 mois. Satou pourra faire sa terminale. Et après sa terminale, on se marie.
L'ami de ma fille raisonnait. Lui, Ibrahim Assal, n'encourait aucun risque de renvoi à l'université. Et même s'il n'était que lycéen, qui signalerait à son établissement sa situation de futur père? Rien dans sa présentation ne changerait. Il demeurerait plat, alors que le ventre de ma fille rebondi serait accusateur. Quelle loi clémente viendra secourir les lycéennes fautives dont les grandes vacances ne camouflent pas l'état? Je n'ajoutais rien à tant d'organisation. À ce moment, je sentis ma fille se détacher de mon être, comme si je la mettais au monde à nouveau. Elle n'était plus sous ma protection. Elle appartenait davantage à son ami. Une nouvelle famille naissait sous mes yeux. J'acceptais mon rôle subalterne. Il faut bien que le fruit mûr tombe de l'arbre. Et c'est tout. Je t'envie de n'avoir mis au monde que des garçons. Tu ignores les transes qui me saisissent avec les problèmes de mes filles. Je me décide enfin à aborder les problèmes d'éducation sexuelle. Satou m'a surprise. Je prends dès lors mes précautions. Je m'adresse au trio, les jumelles étant trop jeunes encore. Comme j'avais hésité dans le temps, je me plie douloureusement à cette exigence. J'insiste pour que mes filles prennent conscience tout de même de la valeur de leur corps. J'insiste sur la signification sublime de l'acte sexuel, une expression de l'amour. L'existence de moyens contraceptifs ne doit pas mener à un déchaînement de désirs et d'instincts. C'est à son contrôle, à son raisonnement, à son choix, à sa puissance d'attachement que l'individu se distingue de la bête. Chaque femme fait de sa vie ce qu'elle souhaite. Mes mots tombaient difficilement devant mes auditrices. De l'assistance, j'étais la plus vulnérable, car aucune surprise n'était peinte sur les visages du trio. Mes phrases hachées n'avaient suscité aucun intérêt particulier. J'avais l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Le trio savait déjà, peut-être. Un long silence, et le trio disparut. Je poussai un ouf de soulagement. J'avais l'impression de déboucher à la lumière après un long parcours dans un tunnel étroit.
À suivre. Vous venez d'entendre Une si longue lettre de Mariama Ba, adaptée et réalisée par Tidiane Tiang. Quatrième épisode. Avec Aïssa Maïga, Marie-Julie Chalut, Diaretu Keïta, Alex Fonja, Ornella Mamba, Mustapha Mboup, Samantha Leba. Musique originale, Blik Bassi. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Mathieu Leroux, Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Une si longue lettre est publiée aux Nouvelles Éditions Africaines. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de franceculture.fr. Akoe nyosi si omale yani e onanywe akoe engani koroye engayo kine ni square.